La première.
Oui.
Oui, oui.
Par où dire ?
Parce que le tison.
Dis-moi. Par où dire ? Et on va danser à nouveau grâce à Péroline Barbet. On va en apprendre bien des choses sur l'histoire de la danse traditionnelle, de la danse de couple fermée où on tourne le dos au monde, comme dans la valse, à la danse ouverte de la ronde ou en chaîne. La danse traditionnelle est une forme qui va s'enrichir au cours des siècles, de la gavotte à la bourrée jusqu'à la polka endiablée qui va débarquer. Tout ça se fige à la fin du 19e siècle.
De fil en aiguille, je ne me l'explique pas complètement, je me suis retrouvée à aller danser en bal. Danser en bal, ça veut dire avant tout danser avec l'autre, et danser sur des répertoires hérités, des pas codifiés, pour qu'on puisse danser unis, tous dans un même mouvement. Donc on danse à 2, à 4, à 50, à 300 parfois. On danse en couple, on danse en cercle ou bien en chaîne. Et voilà, vous avez le bal. Un soir, je suis allée en bal avec une amie, quelqu'un qui ne connaissait rien en musique trad. Ça lui a bien plu, mais à un moment donné, elle m'a regardée un peu interloquée et elle m'a demandé « D'où ça vient toutes ces danses ? Du Moyen-Âge ?» Et là, bien que je connaisse un peu la chose, eh bien, j'ai eu du mal à lui répondre.
Radioscopie du bal, épisode 2, les strates du bal.
Donc un bal folk, c'est un bal dans lequel on vient danser des danses dites traditionnelles, généralement qui peuvent venir de plein d'endroits différents, donc des danses qui ont été pour la plupart collectées, c'est-à-dire recueillies dans des régions de l'Hexagone, voire de européennes, hein, ça peut voire même du monde, ça peut être complètement différent, et qui sont donc pratiquées dans ce contexte-là. Alors c'est pas que des danses qui ont été collectées, il peut y avoir également un certain nombre de danses qui ont été inventées, recomposées, quoi.
Eh non, les danses trad ne viennent pas du néolithique. Ce ne sont pas d'anciens rituels païens. La ronde des sorcières sous la pleine lune et tout ça. C'est Jean-Michel Guilcher, avec ses recherches, qui a remis un peu d'histoire dans tout ça. Et le bal, lui, avec sa cohorte de danse dite traditionnelle, eh bien, il puise dans différentes strates temporelles. En réalité, c'est un millefeuille d'histoire, d'époque, d'esthétique, de société. Et c'est un millefeuille bien compliqué pour le néophyte. Pour donner quelques repères, Marc Clérivet, chercheur et pédagogue, préfère aborder la chose en parlant de grandes familles de danse qui seraient comme des matrices chorégraphiques à des formes diverses. Écoutons-le.
Il y a une idée hein, de ceux qui ont travaillé sur tout ce qui était cette matière traditionnelle, que ce soit de la chanson, de la danse ou de la musique, c'est que c'est très difficilement datable. Donc, généralement, on ne peut pas les dater à moins d'aller faire une recherche. C'est-à-dire, grosso modo, on a des danses dont on ne sait pas depuis quand elles sont dansées dans ces milieux-là. Et souvent, ça, c'est les danses qui sont dites en ronde, de façon générale, ronde chantée, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut appeler de façon très générique du branle, par association avec ce qui était pratiqué à la Renaissance française. Donc, c'est-à-dire un pas généralement répétitif sur une formule d'appui et généralement chanté dans la ronde.
Oui. Alors, sûrement au-delà, au Moyen-Âge.
Yvon Guilcher, danseur et chercheur.
On danse des carols, qui sont des rondes fermées, chantées par les danseurs. Voilà. Comme une danse trop bretonne, par exemple. On est tous en rond, la ronde est fermée, et c'est les danseurs qui chantent. Un, auquel répondent les autres, ou bien deux qui se répondent, etc. Enfin, bref. C'est la ronde est chantée par les danseurs. Ça s'appelle une carole. À la Renaissance, on continue à danser des rondes fermées comme ça. Et on les appelle branles. Il y a un dictionnaire du XVIe qui dit « Et s'appelle branle pour ce qu'on va de flanc à flanc. » Branler, c'était aller d'un côté de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'un nouveau mot ? On ne sait pas. Mais sans doute parce que ce sont des danses en va-et-vient. Le branle double fait deux pas d'un côté, deux pas de l'autre. Le branle simple fait deux pas d'un côté, un pas de l'autre. Et puis des tas d'autres formes combinent tout ça à l'infini. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de nom? Pourquoi on abandonne Carole alors que ça existe toujours? Donc, le branle serait une nouveauté, mais c'est toujours des rondes fermées, éventuellement chantées, ou jouées aux instruments. Et dès qu'une danse fermée est jouée aux instruments, on la voit apparaître en ronde ouverte, d'abord, puis ensuite en chaîne itinérante, éventuellement. Et ça, c'est un phénomène universel. Donc, les branles sont des danses en ronde fermée ou ouverte. On joue avec ces deux formes à cette époque-là sur les branles qui, à partir de Henri IV, vont commencer à se danser aussi en cortège de couple. Ça va tout changer.
Et donc, le pas en question, c'est un pas de branle double pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un pas qui va vers la gauche et qui fait ram, tim, tam, hop, et yam, tim, tam de l'autre côté. Et yam, tim, tam, et yam, tim, tam. Voilà, ben voilà, c'est bon, vous savez danser le demi-rond de l'île-dieu. Et donc, il y aura aussi pareil, c'est vraiment la même structure, quoi. Vous allez chanter après moi et vous allez faire le refrain qu'on vous apprend également. Ce refrain fait gué l'onfar maluretto, gué, gué l'onfar maluré, gué
l'onfar maluretto, gué, gué l'onfar maluré.
Alors, dans la grande famille des branles, bah, il y a le rondeau, par exemple, qu'on peut considérer comme faisant partie de ces branles. Il y a la gavotte bretonne, il y a l'andro, il y a tous les ronds bretons qui appartiennent à cette grande famille, hein, ridée, la ridée, ce genre de choses. Ça peut être également les rondes aux trois pas de Normandie, mais il en existe partout.
Et c'est parti.
Le branle d'Ossau en Béarn, c'est une danse en chaîne. Le rondeau de la Grande Lande, c'est une danse en chaîne. Le branle des Queuillis en Babéry, c'est une danse en chaîne. Il y en a eu partout, dans toute la France. C'est une forme très, très ancienne. En Normandie, mais non, il y en a eu partout.
Ça, c'est des pratiques qui peuvent remonter très, très loin, de plusieurs siècles, en fait, hein, et qui ont pu être pratiquées, peut-être sans même interruption, entre 16e, au moins 16e, 15e, peut-être, jusqu'au 19e. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de modification dans la pratique. Ça veut dire que c'est toujours le même type de danse qui est pratiqué, qui s'est transformé dans le contexte.
Une chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à travailler sur la Renaissance, c'est qu'ils ont des danses, notamment le branle simple, qu'on trouve aussi dans les traditions populaires, notamment en Bretagne. Et alors tu as, par exemple, double à gauche, c'est-à-dire gauche, droite, droite, gauche. Et tu as des mélodies qui tombent juste et tu mets les pieds sur les temps. Et ça donne, par exemple, tabadabadam, pam, 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 pédépédépé, pam, pam, tabidépi, pam, 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 pédépédépédém, pam. Et en Haute-Bretagne, où tu trouves la même danse, c'est jamais le cas. C'est 3 plus 3. Un brin d'or, un petit brin d'amour, un brin d'or, un petit brin d'amour, v'là qu'un soir, l'amour me réveille nuit et jour, me réveille toujours. C'est-à-dire que tan, 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 pim, pim, la mélodie finit avant que tu aies fini le premier pas, elle te tire vers l'avant. Il y a un jeu de pouce-pouce entre la mélodie et le pas. Ce n'est qu'un exemple. Mais là, on est dans un jeu réciproque entre la mélodie et le mouvement. Ils se connaissent l'un l'autre. Ils se connaissent par cœur. Mais ce n'est pas des jumeaux. Ce n'est pas des homozygotes. C'est des amoureux. Ils jouent l'un avec l'autre.
Et après, il y a tout un tas d'autres danses qui sont arrivées plus tardivement. Une autre strate qui est arrivée généralement à partir de la Révolution française, ou un tout petit peu avant, mais la Révolution et le 19e, c'est la grande famille des contredanses. C'est la grande famille des danses à figure qui sont arrivées à partir de la Révolution française et qui ont pu faire souche également dans ces milieux ruraux. Alors, une danse à figure, c'est quoi? Là, on n'est plus dans un dispositif en rond avec un pas qui généralement est le même et qui reste le même pendant toute la danse et chanté dans la ronde. Là, on est plutôt sur des dispositifs qui peuvent être des dispositifs en colonne, une rangée de garçons face à une rangée de filles, par exemple, en cadrette ou en carré, un carré de quatre couples ou des face-à-face de deux couples. Ça peut être plein de choses. Et l'enchaînement, les déplacements des danseurs les uns avec les autres définissent la danse. Typiquement, grosso modo, avancer, reculer, traverser, balancer votre partenaire, balancer la cavalière d'en face, chaîne anglaise. Enfin, on va dire que ce sont des déplacements des danseurs les uns par rapport aux autres qui régissent la danse.
Et ça commence à plaire aux petits jeunes, parce que dans la contredanse, on s'amuse. Ce sont des danses de parcours. Chaque parcours achemine vers une rencontre. On se rencontre, on a une relation avec une partenaire, puis avec une autre qui n'est pas votre partenaire. Et puis ensuite, c'est comme quand on bat les cartes et qu'on trouve toutes les dames ensemble et tous les rois ensemble, on ne sait pas comment. Là, c'est un petit peu comme ça. Il y a des figures quelquefois très ingénieuses qui occasionne des relations multiples. C'est une danse de jeu, une danse de caprice, et ça va être la reine du XVIIIe siècle qui met tout le monde sur un plan d'égalité et donne à chacun à son tour l'occasion de s'illustrer.
Ça, typiquement, on en a retrouvé un tout petit peu partout, mais les plus connus, c'est la Vendôme dans l'ouest de la France. La Vendôme, oui, dans tout l'ouest de la France, le Poitou, l'Anjou, la Haute-Bretagne. Ça peut être également certaines bourrées du Berry, notamment, qui ont pu avoir également des déplacements. Ça peut être le Congo, dans le sud-ouest de la France.
On va bientôt arriver à la fin de ce bal. Ah oui, après, vous fermez, les voisins, vous connaissez, vous êtes de Paris.
Enfin, en Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. Il peut y avoir tout ce qui est quadrille, mais il peut y avoir également tout ce qui est bourré à trois temps, également, qui ont pu également se faire dans des situations de danse à figure, comme ça, grande famille de contredanse. Oui.
On va d'abord faire une bourrée.
Avant toute chose, absolument.
Voilà. Avancez d'un côté, et quand il y a une personne qui décide, et ça, c'est un peu mystérieux, vous allez dans l'autre sens. Et il y a même un monde où vous pouvez tourner sur vous-même à un moment donné. Sentez-vous libre surtout. Hein. Allez, bourrez.
Respirez par le ventre.
Donc, la contredanse, cette reine du 18e, selon l'expression d'Yvon, elle infiltre un peu partout. Pour résumer, elle vient d'Angleterre. Elle passe par la cour du roi Louis XIV. Elle conquiert Paris, puis elle infuse un peu partout en province et elle se popularise. Et là s'opèrent des osmoses, des syncrétismes parfois difficiles à démêler. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que des figures simplifiées de la contredanse se greffent au pas de certaines danses régionales. Et c'est ce qui se produit par exemple pour la gavotte, la bourrée ou bien encore le rondeau.
Après, il y a une troisième strate qui est arrivée plus tardivement et que certains considèrent ou non comme étant la danse traditionnelle parce qu'elle n'a pas eu beaucoup le temps de faire souche et qu'on la retrouve la commune avec le bal public qui est commune dans toutes les grandes villes. C'est tout ce qui est danse en couple. La valse, la polka et tous les dérivés de mazurka, de scottish et ce genre de choses qui ont également été recueillis dans les milieux ruraux, mais qui étaient également pratiqués, grosso modo, dans le bal public à la fin du 19e ou au début du 20e dans toutes les villes.
La valse apparaît en France à l'époque révolutionnaire, mais n'a pas de succès en France, parce qu'on est dans une époque qui est éprise de la contredanse à pas difficiles. Alors la valse, ça fait rigoler tout le monde. Il faut être allemand pour aimer ça. Ce qui va tout changer, c'est 1844, la polka. Arrivée de la polka, c'est nul la polka comme danse. C'est facile, c'est pas intéressant. Mais moi, on gigote, on cavale. Mais tout le monde peut danser la polka. Tout le monde se jette sur la piste pour faire ce pas qui est pas intéressant. Et ça va finir par détrôner ce qu'on appelle la belle danse. Et même la contredanse, le quadrille, tout ça va disparaître parce que c'est trop difficile.
C'est dans tous les bals publics, après la disparition du quadrille, la ruée sur la danse en couple. Donc on en invente tous les ans, les mettre à danser en avant tous les ans, et ça, ça finit par diffuser dans tous les milieux. En fait, c'est quelque chose qui est moins géographisé que structuré socialement. Et quelque part, en fait, ces danses en couple sont à la fois presque le dernier maillon de ces pratiques qu'on peut considérer comme traditionnelles, mais également le point de jonction entre une manière de danser un bal populaire qui aujourd'hui est uniformisé partout. Partout, le bal des pompiers du 14 juillet, par exemple, on peut le concevoir comme ça, si on veut.
Ah, bravo la danse! On continue avec une danse qui est de nouveau une Scottish. Voilà, donc vous pouvez reprendre quelqu'un dans vos bras si elle ou il est d'accord. Et marcher en rythme, ça ira très bien. Sinon, sentez-vous inspiré.
Mais sinon, allez, je vous donne une astuce là. La Scottish, c'est deux pas à gauche, deux pas à droite, marche, 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 marche. Quatre fois. Deux
Alors, pas à la gauche, marge, on peut également retrouver d'autres pratiques qui sont passées par les pratiques militaires. Voilà. Là aussi, à partir de la Révolution française, l'armée a pu être un endroit où on a appris à danser avec des brevets de. On faisait passer des examens de maître de danse. Et ces jeunes hommes qui allaient apprendre à danser à l'armée ont pu ramener chez eux dans leur région, de façon plus ou moins importante, ça dépend des régions, des pratiques dansées relativement techniques, voire même très techniques, ce qu'on peut appeler des points de principe, notamment au Pays Basque, notamment également en Provence, mais également dans l'ouest de la France, par exemple, dans des pratiques de type pas d'été. Par exemple, en Haute-Bretagne, hein, ça peut être une ou deux personnes dans une commune qui reviennent et qui apprennent ces points techniques-là et qui peuvent venir distiller dans la pratique de l'avant-deux, quoi. C'est-à-dire c'est modifier un peu, donner des éléments plus techniques.
Donc, ça circule. Ça circule des élites au milieu populaire, des milieux populaires vers les élites, de l'armée vers les villages. Et puis il y a aussi des recompositions et même des inventions. Comme dans les années 70, où les collecteurs ont largement réadapté certaines danses pour ce tout nouveau contexte qu'est le bal.
Donc on a tous composé des mixeurs, on n'arrête pas. Et on les complique de plus en plus. Dans un mixeur, toute la suite de figures fait changer de partenaire. Mais nous, on a fait des trucs où on change de partenaire au cours de la figure. On a multiplié, on a utilisé la règle du jeu pour la mener beaucoup plus loin. Donc on compose. Mais on compose. On a au départ un matériel qui n'est pas du tout de nous, qui est populaire, qui est recueilli par des collecteurs.
Le cercle circassien qui a été enseigné et intégré au bal folk par Yvon Guichère, en fait, est une partie d'une contredanse anglaise qui a été prise légèrement, ça dépend comment on conçoit, en tout cas adaptée pour le bal folk, mais à la base c'est bien une contredanse, hein, avec grosso modo, telle qu'elle est dansée en bal folk, quatre figures, hein. À l'avancée reculée générale de la ronde, les filles avancent et reculent, deuxième figure, les garçons avancent, se retournent et vont balancer ou swinguer avec les filles, et une promenade. Mais voilà comment on peut décrire le cercle circassien, ce qui montre bien que ce qui structure le cercle circassien, c'est cet enchaînement de figures.
Le cercle circassien est une danse à quatre, difficile, mais elle est conclue par un big circle. C'est une danse populaire, recueillie en Angleterre, dans le Northumberland, en 1936, par Madame Maud Carpelus. Elle a recueilli cette danse, ça, il n'y a pas de doute. Mais ce n'était pas sur un 6-8, et deux, et ça ne s'appelait pas cercle circassien. Alors je demande à Dominique, qui était mon musicien, je lui dis, est-ce que tu connais... Il me dit, non. Je dis, bon, est-ce que tu connais... Non. Je dis, bon, c'est dommage parce que j'ai une danse. Il me dit, je connais un jig, si tu veux, un jig irlandais. Je dis, un jig, oui, il faudrait un reel, mais bon, c'est quoi ton jig? Il me joue. Je dis, on va prendre ça. J'ai appelé ça cercle circassien, alors que ce n'est pas le cercle circassien.
C'est la fin.
C'est le big circle qui succède au cercle circassien. Cercle circassien, c'est difficile, je ne pouvais pas faire ça en balle. Mais là, le Big Circle, oui. Tout le monde avance, recule deux fois. Les filles avancent, les garçons avancent, se retournent. Puis si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si vous pouvez vous donner les deux mains, vous sautillez. Promenade, etc. Bon, j'en fais ça. Le tube, il a fallu le faire 5 fois dans la soirée de ce bal. 5 fois. Le lendemain, toute la France le faisait. Et je constatais qu'il le faisait comme je l'avais enseigné, c'est-à-dire faux. Tout le monde prenait des jigs, des 6-8. Des trucs comme ça. Alors que c'est un petit tampa. Normalement, c'est ça, mais je pouvais pas le jouer. Mon Dominique Rejeff, il me joue un jig. Tout le monde jouait des jigs. Et il continue, c'est toujours des jigs. Et tout le monde appelle ça le cercle circassien. Alors c'est le Big Circle.
Bourré à deux temps par le groupe La Machine. Pour résumer, on a les danses en rond, les danses en chaîne, les danses à figure avec la contredanse, les danses en couple fermé. Et bien voilà quelques balises qui permettent de lire le bal. Et tout ça correspond à des moments de l'histoire et à des types de sensibilité. Synthèse par Yvon Guilcher.
C'est sûr que les branles, c'est une époque, c'est la Renaissance, ça va se maintenir par la suite, se diversifier, arriver dans les campagnes, mais enfin, l'apparition des branles, c'est la Renaissance. Bien, la contredanse, en gros, c'est le 18e, la danse pour couple fermé, en gros, c'est le 19e. On a donc là des âges différents. Mais à partir du moment où nous, à terme, nous disposons de toutes ces formes-là, eh bien ce ne sont plus des âges de l'histoire, ce sont des formes de notre sensibilité, à nous. On peut très bien aujourd'hui écouter chanter Souchon ou une cantate de Bach. Bach n'est pas dépassé, il fait partie d'une culture actuelle. Donc, nous, dans le bal folk, on a été piqué dans les répertoires Renaissance, dans les répertoires du 18e et du 19e, des choses qui nous paraissaient intéressantes de répandre. D'abord parce que beaucoup de musiciens en jouaient les airs et personne ne savait les danser. Nous, on savait, c'était un coup de peau. Et ensuite, parce qu'on pensait que ces danses pouvaient... D'abord, ce sont des dispositifs totalement différents. Une ronde fermée, un carré, des danses à figure, une danse pour couple fermé. Ce sont des dispositifs différents qui proposent chaque fois une façon différente d'éprouver la relation à autrui. C'est formidable, ça. On trouve ça nulle part ailleurs. C'est pas le ballet classique qui fait ça. C'est pas rien. Il n'y a que les danses traditionnelles. Tous ces dispositifs sont des mises en ordre sociales qui conditionnent déjà les relations que les gens vont avoir entre eux.
Quand vous parlez de qualité de relation différente selon les danses, est-ce que la qualité de relation sur la chaîne, c'est quoi ? La qualité de relation dans la valse, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'éprouve, qui s'expérimente là ?
Je ne sais pas si le mot qualité est celui qu'il aurait fallu prendre. Ce n'est pas la même relation, je dirais. Dans une ronde, ça c'est une chose étonnante à vivre. Je l'ai vécu en Bretagne avec des paysans. Une danse fermée, chanté par deux des chanteurs, où on se tient par les avant-bras, et où l'histoire raconte, c'est l'histoire d'un crime, par exemple, ou d'un gars qui va au séminaire pour devenir prêtre et qui tombe amoureux d'une fille qu'il rencontre en cours de route, etc. Toutes ces histoires-là, en milieu paysan, il faut regarder les visages autour de vous. C'est grave, on communie là-dedans. Et cette forme unifiante qu'est la ronde, elle met tout le monde sur le même plan, elle rend tout le monde semblable à son voisin. C'est la forme solidaire par excellence. Et là, on éprouve la société comme un tout, comme un bloc qui ne distingue personne. Ça, c'était une première chose. Quand on arrive à de la contredanse, là, on a des relations ludiques et amicales avec différentes personnes. C'est plus du tout la même chose. Quand on arrive au bourré, pour moi, la bourrée, il faut avoir le pas déjà. Mais si on a le pas, qu'on le domine bien et qu'on joue avec, alors la bourrée devient une occasion de jeu extraordinaire entre partenaires. Parce qu'elle inclut une part d'improvisation, la bourrée. Et cette improvisation, mais c'est toi mon partenaire là, réponds-moi à ça. Ah tu m'envoies ça, ben, je vais jouer aussi avec. La bourrée devient un jeu. Et la valse c'est par définition une danse sentimentale. Je sais bien que nous aujourd'hui, nous n'y mettons certainement pas ce qui a mis Madame Bovary. Madame Bovary qui est au bal, en attendant qu'on l'invite. a les mains qui tremblent, elle s'évente avec son éventail, elle cherche à prendre une contenance. Et puis arrive la valse, alors là, la valse avec Léon, puis avec Rodolphe. Ah, ça, c'est sentimental, c'est l'idylle. On tourne le dos au monde entier, on se soustrait au regard social. La valse entraîne toujours plus loin l'idylle qu'elle fait naître.
Et puis il y a un moment où les bals folk arrêtent d'intégrer les danses nouvelles quand même. Hein.
Oui, oui.
Et c'est le musette qui prend ça. Le foxtrot, ouais. Le tango,
oui.
Toutes ces danses-là. Bah,
nous, on n'a pas répondu ça du tout.
Pourquoi alors?
Parce que personne n'en jouait, je crois. Moi, au début, j'étais pas très enthousiaste pour enseigner ces danses pour coupe fermée. Donc, tout ce qui est venu après le 19e siècle n'a pas cours dans... C'est vrai, ça, j'avais pas remarqué ça, c'est une très bonne remarque. N'a pas cours dans le bal folk. Le bal folk a arrêté ses fouilles à la fin du 19e siècle.
Quand le bal folk a été créé, il faut quand même rappeler que le bal folk est une création très récente. Ça date du tout début des années 70.
Christophe Sacchettini, musicien.
Et ça a été fait dans un but précis, qui était un but de rassemblement, de fédérer des gens qui avaient ce désir, cette volonté de d'exhumer des répertoires traditionnels et de les mélanger dans un espace commun, ce qui n'existait absolument pas avant. Et du coup, on s'est retrouvé tout d'un coup à danser dans un même espace le rondeau, des danses bretonnes, la bourrée du Berry et des branles de la Renaissance qui ne sont au départ absolument pas des danses populaires. Mmh. Et donc, il y a cette espèce d'illusion, d'espèce de gros melting pot qui s'est construit comme ça. On a rajouté là-dessus des danses de couple. Et on a construit une espèce d'identité qui est différente et puis qui vaut aussi, qui varie aussi en fonction des, non seulement en fonction des publics, mais évidemment en fonction des musiciens.
Le bal, c'est donc un melting pot qui pose pas mal de questions de transmission à ses passeurs et des questions parfois insolubles. Est-ce qu'on apprend les danses pendant le bal? Est-ce que ça suffit pour bien danser d'apprendre pendant le bal? C'est quoi la belle danse? Est-ce qu'il faut rester fidèle pour être juste? Est-ce que c'est même important la belle danse, la nécessité de la technique?
On demande d'apprendre des danses tout de suite, un peu à une vitesse un peu effrénée, alors qu'on ne se pose pas la question quand on va à un bal tango. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne se pose absolument pas la question quand on va danser le tango. Quand on va danser le tango, le bal, ça vient après, mais on va apprendre le tango, on paye cher, on arrive avec son cavalier, sa cavalière, et puis on travaille, quoi. On travaille, on apprend des pas, on apprend la fluidité, on apprend l'écoute de l'autre, on apprend la transmission par le mouvement, enfin tout ce qui fait la qualité du mouvement et qui est primordial pour qu'il y ait une qualité de danse, c'est-à-dire la transmission de l'impulsion. Comment est-ce que le mouvement se fait à deux au lieu de se faire tout seul? Et on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Tandis que dans la danse trad, on a l'impression que si au bout de 5 minutes, on vous a dit qu'il fallait poser le pied ici plutôt que le poser là, tout d'un coup, il y en a qui crient au fascisme parce qu'on les a traumatisés en leur expliquant que bah, non, la danse traditionnelle, c'est pas quand même tout à fait n'importe quoi. Et on a l'impression, moi je pense que le bal... Il y a une espèce d'illusion de convivialité, de partage, et qui est réelle du bal, mais qui s'est fait à un moment donné au détriment du fait que la danse traditionnelle a une histoire et que cette histoire, elle s'apprend. Elle s'apprend en même temps que l'apprentissage de la danse elle-même, quoi. Et que c'est comme ça qu'on en arrive à la qualité du mouvement.
C'est la bourrée à trois temps, il me semble. Alors, on commence en face, un demi-cercle à droite, un demi-cercle à gauche. Ensuite, l'un tourne autour de l'autre. Une fois qu'il a fini son tour, l'autre tourne autour de l'un et on reprend en demi-cercle, etc.
Je crois que c'est ça.
Tu n'as jamais dansé?
J'ai essayé, c'était pas concluant, du coup je reprends des petits conseils.
On sait pas faire.
Encore une fois, je pense que le bal n'est pas l'endroit où on apprend vraiment à danser. On va pratiquer, on va mettre sa danse à l'épreuve de la communauté de danse, bien sûr. On va mettre sa danse à l'épreuve de la musique, sachant que la musique à danser n'est pas là à 100% pour satisfaire la danse. La musique à danser, elle est là aussi pour s'exprimer en tant que musique. Hein, ça me paraît... très important. Le modèle du bal folk est un modèle très séduisant qui séduit parce que ça fonctionne, parce que c'est convivial, ça réunit des couches de la société, donc on peut penser qu'elles viennent de tous les horizons D'accord. différents, alors que c'est pas forcément vrai. Et je pense que ça répond à un besoin de racines chez les publics néophytes. Donc qui dit racines dit forcément se situer dans une continuité, dans un fantasme de continuité, parce que c'est qu'un fantasme, qui est à la fois un besoin historique, mais aussi un besoin de faire des danses dont on pense qu'elles sont enracinées dans un lieu, dans un terroir. On peut répondre aujourd'hui en France, il y a des tribus qui répondent à ce besoin. Je veux dire, quand on va chez les braillots, il est évident qu'on y va pour apprendre en premier lieu la bourrée, et c'est complètement légitime. Quand on va dans les Hautes-Alpes et qu'on va travailler avec les violons du rigaudon, il paraît évident qu'on va apprendre le rigaudon. Quand on va en Bretagne, ce qu'on apprend en premier lieu, c'est les danses bretonnes. Mais le bal folk est l'espace qui mélange tout ça. Donc on va trouver effectivement toutes ces danses qui sont apparues à des moments de l'histoire complètement différents les uns des autres. Quand on va danser dans un bal folk, quand on se retrouve à danser... le branle d'Écosse ou le branle des chevaux, on a l'impression que tout ça remonte au Moyen-Âge, alors que c'est pas vrai. On a l'impression de plonger dans les racines de la tradition populaire française, alors que c'est pas vrai du tout non plus. Et en fait, toutes ces danses sont historicisées. Et nous, notre boulot, c'est aussi de dire aux gens, apprenez à fouiller. Quand on va aux champignons... On apprend à faire la différence entre les amaïtes tumouches et les cèpes et les bolets, je dirais.
Oui, dans le bal folk, l'hétérogénéité des danses et du répertoire... propose simplement un voyage dans le temps et l'espace.
Christophe April, sociologue.
Il y a quelque chose de très réjouissant, ça ouvre des paysages. On n'est pas du tout dans la répétition d'une certaine manière. C'est peut-être ça qui va caractériser le bal folk, alors que dans les soirées salsa, bon, il y a bien des styles en salsa, hein, la cubaine, la portoricaine, la colombienne, idem en tango, pareil en foxtrot par exemple, mais bon, les soirées foxtrot ne sont pas vraiment répondues. Mais on va trouver des déclinaisons stylistiques. Mais on va quand même rester sur des répertoires musicaux et stylistiques assez homogènes, plus homogènes. Ouais. Ce qui permet, la contrepartie, c'est que ça permet aux praticiens, qui sont la plupart du temps des passionnés, c'est-à-dire passionnés au sens où ils organisent leur vie autour de leur pratique, ça permet aux praticiens d'approfondir parfois une complexité de la danse, d'aller pour certains un peu plus loin dans l'exploration technique et aussi l'exploration de l'état de danse.
C'est particulièrement vrai dans le monde du trad, dans la mesure où il y a pas mal de pratiques de danse qui se sont reconstruites à partir du document de collectage et à partir de la recherche historique. Et ça, c'est bien légitime de connaître, de chercher à connaître ce qu'on danse, de ne pas être ignorant de ce qu'on danse pour savoir ce qu'on fait, mais aussi pour danser bien, non ?
Alors oui, bien sûr, la collecte joue un rôle important avec tout le mouvement qui a émergé dans les années 70. Mais précisément, il y a plein de controverses dans le courant à travers cette entreprise de collectage, ces différentes manières de faire revivre des pas. C'est Jean-Michel Guilcher, un des premiers ethnologues qui s'est intéressé à cette problématique-là, qui rappelait une chose qui de bon sens, hein, qui disait simplement, ben voilà, entre deux villages, tel pas, on le pratiquait différemment parce que les gens n'étaient pas de la même génération, ils n'avaient pas la même souplesse, ou ils n'avaient pas les mêmes envies, les mêmes désirs, ou ils n'avaient pas les mêmes paysages culturels. Et d'un hameau à un autre, ça pouvait changer. Donc il s'agissait de la même époque, de la même danse et de la même condition sociale. Et donc, dans l'entreprise de restauration de ces danses, après un travail de collecte, il y a bien cette question qui se pose. Et c'est là où la question de l'origine, en fait, est un peu une fausse question, parce qu'on est toujours dans l'interprétation, la réinterprétation. Après, la question du bien danser, du beau danser, ça c'est une autre question qu'on peut aborder.
Bah, en tout cas, c'est une question importante, cette question de s'appuyer sur des collectages dans le milieu trad pour avoir justement un état de corps, enfin, à la fois des chorégraphies, mais aussi un certain état du corps, de choper des ornements, des énergies.
C'est vraiment une question transversale à n'importe quelle danse en fait, qui nous vient du passé. C'est... Est-ce qu'on est dans l'imitation ? Est-ce qu'on est dans la reconstruction ? Est-ce qu'on est dans la folklorisation ? Est-ce qu'on est dans l'idéalisation de la danse, du pas de danse ? Est-ce qu'on est dans une recherche d'état de corps, mais d'état de corps avec les corps de maintenant et les réflexions sur l'énergie qui sont les nôtres maintenant ? En arrière-fond, pour moi, en tant que sociologue, c'est la question de la socialisation des corps qui est posée. C'est-à-dire que la socialisation des corps qui résulte d'une éducation familiale dans un milieu social donné, elle peut évoluer avec le temps. Et ça, un historien du sensible comme Alain Corbin le montre bien. La sensibilité de l'odorat, du toucher, de l'ouïe au 19e siècle n'est pas forcément la même que celle d'aujourd'hui. La hiérarchisation des sens même peut évoluer au cours de l'histoire. Donc, en fait, s'appuyer sur un répertoire ancien et essayer de retrouver des états de corps, c'est toujours essayer de retrouver des états de corps du passé avec une socialisation du corps qui résulte d'un processus de transmission qui nous ancre dans un effet de génération. Pour le dire autrement, moi qui suis né dans les années 60, je peux avoir une même socialisation du corps, quel que soit le milieu social, que quelqu'un qui est né en 1880. Et ça va largement influer sur la manière dont je vais essayer de rentrer dans une dynamique corporelle pour m'approprier une danse.
En tout cas, c'est une question importante, là, cette question de s'appuyer sur des collectages pour s'imprégner, pour s'imprégner d'un certain état de corps, mais aussi pour emprunter des chorégraphies, choper des ornements, ça et là, des énergies particulières, des postures. Est-ce que la fidélité aux sources de collectage, Olivier Durif, peut être abordée sans conservatisme ? Autrement dit, faut-il danser comme les anciens pour être un parfait danseur?
Rien n'est inutile. Rien n'est inutile. Mais ce n'est pas suffisant d'être, à un moment donné, il faut danser soi qui est en route.
Olivier Durif, musicien et collecteur.
On cherche à ressembler aux vieux danseurs qui dansaient merveilleusement bien, avec une grâce incroyable. Bien sûr qu'il faut s'en inspirer. Mais à un moment donné, il faut danser soi. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans la nuit de la bourrée. Le début de la nuit, c'est souvent beaucoup de monde sur le parquet. Donc là, tu ne peux pas te prendre de place. Puis sur le coup de 11h30, d'un seul coup, ça s'émancipe. Et la bourrée, c'est toujours les mêmes qu'on joue. Mais d'un seul coup, tu as des danseurs et des danseuses surtout. C'est souvent c'est assez marrant. Qui se mettent à ça y est, c'est parti, c'est une danse qui est suffisamment libre dans la rigueur qu'elle développe pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre du présent et pas simplement
d'un passé reconstruit. Et moi, je sais qu'en tout cas, la collecte nous a beaucoup aidés, mais nous a beaucoup aidés. À un moment donné, il faut décoder, il faut passer par-dessus la forme pour garder, rester fidèle au fond des choses. Pour tout dire, Picasso, il a passé sa vie au Louvre à regarder Georges de la Tour, à regarder l'étoile de Georges de la Tour. Il n'a pas fait Georges de la Tour, il a fait Picasso. Et je pense qu'on peut être, l'expression contemporaine d'une tradition longue sans être rivé à un modèle figé qui fige les choses. L'histoire dit que, à mon avis, à un moment donné, on peut interpréter la tradition. Quand on a bien compris, on peut l'interpréter et faire, entre guillemets, autrement. On est quand même dans la même histoire, quand même, avec ceux qui nous ont précédés.
Et à quoi dépend le père del soulier de l'arsemele? Et à quoi dépend le père de l'arsemele del soulier? À quoi dépend le père del soulier de l'arsemele? Et à quoi dépend le père de l'arsemele del soulier? Per plavo danzar, ritmo della musica, per plavo real, calca danzar. Per plavo danzar, escuta la musica. Per plavo real, calca danzar. E a quale pende il pè del soulier e della semele? E a quale pende il pè della semele del soulier?
Bourré, enregistré auprès de Félix Trébosc par les membres de la Talvert.
E a quale pende il pè del soulier e della semele? E a quale pende il pè della semele del soulier? Per plavo danzar, escuta la musica. Per plavo real, calca danzar. Per plavo danzar, escuta la musica. Per plavo real.
Dans les ateliers que tu animes, quand tu transmets la danse, est-ce que ce lien historique, comment on peut dire, ce lien territorial, ce lien d'archives, il est important ou finalement il prend trop de place?
Moi, je ne crois pas qu'il prenne trop de place. Moi, je serais pour que toutes les archives, elles soient numérisées, mises sur Internet.
Clémence Cognier, musicienne.
Dans les stages qu'on fait chez les Braillots, quand on a du temps, c'est-à-dire pendant les volcaniques, on passe du temps à regarder des collectages qui ont été faits par, globalement, les frères champions, Eric Coustet, Marien Barthes, toute l'équipe initiale, quoi. On passe du temps à regarder des collectages. Enfin, moi, je m'emploie assez fort à cultiver un rapport précis avec ces documents, c'est-à-dire, c'est comme écouter un bon disque. Quand tu joues de la musique et que tu cherches de la nourriture, t'écoutes un bon disque et de ça, tu retires plein d'idées, tu te construis aussi en réaction à des trucs. Et ben, regarder des collectages, c'est pareil. Il faut pas que ce soit plus que ça. C'est avoir dans les yeux quelque chose qui nourrit parce que c'est beau quand il fait comme ça, ce mouvement, se jeter d'épaule, machin, n'importe quoi. Et en fait, c'est ça qu'on fait. On dit... Vous regardez ce collectage, là, cette vidéo, et vous avez pour consigne de choper un élément, de copier quelque chose, et que vous allez essayer après. Il faut tout de suite mettre dans le mouvement, et après, une fois que vous avez essayé, que vous avez l'impression que vous l'avez pris pour vous, vous allez le transmettre à quelqu'un d'autre. Et tout de suite remettre de l'éducation populaire avec ça, pour que ça vive, parce que sinon, si tu dis « Ah, voilà, le Graal, la source, le nectar ultime de la danse qui est pratiquée aujourd'hui 100 ans plus tard », ça n'a aucun sens, quoi. Je crois que ça n'a pas de sens. Dans la pratique qu'on en a chez les Braillots, qui a un peu, en fait, été inventée par les frères champions, mais c'est une pratique très improvisée, où le cadre très minimal des bourrées qui ont été filmées, en fait, il est vite Enfin, on s'en affranchit très vite, quoi. Et c'est, ça fabrique de l'improvisation et donc de la négociation en direct avec la personne avec qui tu danses. Et ça, c'est quand même assez délicieux, quoi, je trouve.
C'est marrant que tu utilises ce terme. Qu'est-ce qui a été inventé par les champions dans la bourrée ?
Je pense que c'est le prisme de l'improvisation, en fait. Enfin, inventé. En fait, j'en sais rien. Moi, il m'est parvenu par eux. Et quand j'ai regardé les collectes que eux-mêmes ont regardées, je me suis dit, ah oui, ça, ils l'ont pas trouvé dans les collectes. Ou alors, ils ont tiré un fil. Ils ont fabriqué un discours, en fait. Ils ont fabriqué leur propre discours comme n'importe qui regarde n'importe quelle œuvre d'art et qui en fait quelque chose derrière. Et moi, ça, je trouve ça très beau de me dire ça parce que ça en fait, mais j'en doutais pas, hein, des vrais artistes, quoi. C'est des artistes. Ils ont été collectés des danseurs et danseuses traditionnels et ils s'en sont nourris et ils ont fabriqué un discours de danseur avec ça.
Et donc ce fil de l'impro, c'est quoi ?
Je pense que c'est en appui sur des formes chorégraphiques très minimales, très 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 simples, qui sont pas toujours raccord avec la carrure musicale. Et du coup, on dirait qu'elles sont en dehors un peu, et qui parfois sont négociées selon l'espace qu'on a, selon la personne avec qui on danse. Il y a des petits ajustements de structure qui se font en direct. Et du coup, eux, ils ont dit, bah, en fait, si c'est ça, si on entrevoit cette brèche de la chorégraphie est tellement sommaire et on peut en plus, on peut la tordre un tout petit peu, bah, en fait, ça veut dire qu'on improvise. Ça veut dire qu'avec ça, avec ces tout petits éléments, et bah, on fait ce qu'on veut, en fait. Et ils ont fait d'ailleurs un travail très, très intéressant sur jusqu'où on a encore de la bourrée si on enlève tout. Si on enlève le pas, si on enlève la posture, si on enlève la carrure, si on enlève le déplacement, si on enlève la temporalité, si on enlève la musique, jusqu'à quand c'est encore de la bourrée, quoi ?
Il reste le sabot.
Ouais, bah non, même pas, parce que c'est un des premiers trucs qu'ils ont enlevé, du coup, ça marche pas.
Le bal folk est donc une puissante machine à apprendre. Mais Lucas Thébault pointe les limites de cette dynamique auto-formatrice du bal.
Alors il y a eu l'été 2021 qui était un peu l'été de la reprise, où là c'était un petit peu en demi-teinte. Et depuis l'été 2022, on a vu des hordes de débutants débarquer en festival. Ça fait 2 années de suite que les festivals sont débordés et n'arrivent pas à anticiper, même avec des projections de croissance, n'arrivent pas à anticiper ce qui arrive et sont soit complets, soit dépassés par les demandes, que c'est plein partout, qu'il y a plein de balles qui se créent, des nouveaux balles à droite à gauche, il y a de la demande dans tous les sens. Donc ça a mis un coup de fouet quand même à la reprise assez notable.
Donc tout ça, c'est des nouvelles générations de danseurs qu'il va falloir former aussi.
C'est ça, ce qui est assez rigolo, parce que du coup, ça nous a permis de réaliser une chose, c'est que on a toujours eu des nouveaux qui arrivent en permanence. Et en fait, dans ce milieu, il y a quand même la plupart des gens n'apprennent pas en atelier ou en cours ou quoi, la plupart des gens apprennent de manière spontanée dans le bal. En fait, on a réalisé que un bal peut absorber jusqu'à une certaine masse critique de débutants. Je sais pas laquelle, mais c'est-à-dire que s'il y a 10% de débutants dans un bal, c'est facile pour eux d'observer et de commencer en observant. Si dans un bal, alors bon, ça c'est des proportions qui n'existent pas, mais c'est juste pour illustrer le propos, si dans un bal on a 70% de débutants et 30% d'habitués, ben là les débutants ont plus assez de monde sur qui se calquer, et du coup l'auto-formation est beaucoup plus délicate, en tout cas prend plus de temps, quoi. Donc, c'est un enseignement intéressant qu'on retire de ça, je pense.
Donc vous allez revenir au mantra de Yvon Guilcher. Atelier, stage, bal.
Mais ça marchera pas plus qu'à l'époque, je pense. Les gens n'ont pas plus envie de ça. Ça reste... Enfin, il y a toujours, heureusement, une partie des gens qui ont envie des deux. Mais on a toujours aussi le public des gens qui sont en atelier et qui viennent pas au bal parce que c'est trop la foire d'empoigne. Voilà. Et les gens qui viennent que au bal parce que, oh là là, les ateliers, c'est rigoriste, on se fait chier.
Ah d'accord, il y a toujours ce clivage.
Oui, ça existera toujours.
Les gens qui font que des ateliers, mais ça sert à quoi?
Bah ceux-là, ils viennent pas en festival, c'est les ateliers à la semaine. Ouais, comme tu pourrais avoir ton cours de yoga
tango,
ou de tango, t'as ton cours de bal folk, de danse traditionnelle souvent plus, on va appeler ça, mais t'as ton cours de danse traditionnelle.
Ou atelier flamenco, mais tu vas pas au Rouerga, tu vas juste pour...
Ouais, c'est ça.
D'accord. Est-ce que tu trouves que parfois la danse est dégradée en bal, où il y a des balles où, je sais pas, il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant?
J'entends beaucoup ce discours-là, moi. Non, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois que plus il y a de gens qui dansent mal, plus il y aura de gens qui dansent bien. Parce qu'il y aura plus de gens qui dansent, tout court. J'ai l'impression que si les gens dansent et qu'ils voient d'autres gens danser, les choses vont bien se passer, tu vois, les choses vont se transmettre. Parce que c'est comme ça que ça vit, en fait, tu vois. Tu regardes des gens qui dansent dans un bal et t'es ému parce que tu vois, et donc t'as envie de le refaire parce que t'as envie de revivre l'émotion. Et au début, tu danses mal, et puis après, tu t'approches de ce truc qui t'a ému.
Et tu cherches à te perfectionner.
Ouais, je crois. Et puis, en fait, je crois que l'inquiétude qui traverse un peu notre milieu, là, c'est que les gens se satisfassent d'une danse qui serait un peu de bas étage ou qui serait suffisante pour passer un bon moment, mais en fait, qui serait un peu disgracieuse et puis, du coup, pas très ancrée, avec pas beaucoup de références, machin. Mais je crois qu'on peut pas dénigrer le fait que la danse serve à passer un bon moment. Je crois que c'est déjà un peu super formidable que ça serve à ça. Je trouve ça un peu à côté de la plaque, je crois, de dire les gens devraient faire plus que ça. Ils devraient non seulement passer un bon moment, mais en plus être un peu plus performants. Je pense qu'il faut laisser les gens danser peinard, et ils danseront à un moment, et ils choperont des références parce qu'elles sont là. En fait, il y en a aussi des gens qui dansent de manière très, très ornée, très référencée. Il y en a dans tous les bals. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça va vivre. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Après, il y a des choses à faire. On peut se dire, tu vois, justement, dans la FMDT, on réfléchit beaucoup à ça. Qu'est-ce qu'on met en place pour que les gens aient le goût d'aller plus loin, de creuser, de perfectionner leur mouvement, parce qu'en fait ça procure plus de joie, que la joie est plus intense quand t'as l'impression que ton matériau tu le maîtrises. Comment on fait passer ça, le goût de la précision dans le mouvement, le goût du respect du rythme, le goût de la recherche et d'appuyer sa pratique sur des références. Bon, bah voilà, il y a plein de choses à imaginer, quoi. Ça se passe à l'école, ça se passe dans les stages, ça se passe aussi dans des pratiques artistiques qui donnent envie. Voilà. Mais je crois qu'il y a pas, il faut pas baser ça sur de l'inquiétude.
Voilà, c'est la fin de l'épisode 2. Dans l'épisode 3, nous plongerons dans les eaux troubles du bal, où il sera question de la naissance du bal folk, des tensions entre le monde des danseurs et celui des musiciens,
et de cette planète trad qui se diffracte en myriades à travers notamment les lignes de partage entre les tradeux et les folkeux. C'était Radiographie du bal, une série de podcasts de Péroline Barbeada pour Monde Audio. Épisode 2, les strates du bal, avec Marc Clérivet et Yvon Guilcher, Christophe Secchettini, Christophe April, Clémence Cognet et Lucas Thébault. Un documentaire réalisé avec l'aide de l'appel à projet Mémoire du 20e et du 21e de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le concours du CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, de l'AMTA, l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, et de l'association L'Échappée, collectif de réalisateurs en Rhône-Alpes.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Thank you.